troisième plateau pour ces Rubix 2006. Il y a toute l'équipe du podcafé.be autour de la table. J'ai eu l'occasion ce matin déjà de rencontrer Damien Van Acter. Vous êtes journaliste, vous avez animé un atelier comment diffuser du son ou des images sur Internet. Est-ce qu'on peut faire un peu le point, avant de rentrer sur l'équipe du podcafé.be, sur cet atelier ? Est-ce qu'il s'y est dit ?
Mais on se rend compte que maintenant, le son et la vidéo sont accessibles sur Internet de manière vraiment à la demande. N'importe qui a l'occasion maintenant de diffuser du son et de la vidéo sur Internet, et n'importe qui a l'occasion d'aller chercher ce son et cette vidéo quand il le veut, où il le veut et sur le support qu'il veut. Et ça, ça introduit quand même un changement de mentalité, un changement dans la manière de consommer l'information, quelle qu'elle soit, hein, de la plus intéressante à la plus futile. On parle aussi d'une révolution avec les blogs, avec le podcast. C'est vraiment une nouvelle manière de consommer l'information, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment il faut faire, puisqu'on découvre ces techniques-là. C'est important d'évangéliser, de montrer aux gens que c'est possible, que c'est pas très chinois, qu'avec un peu de passion et un peu de temps, c'est possible. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de présenter un peu sur le panel ce matin, et j'espère qu'on y est arrivé.
Il y avait plusieurs intervenants. Oui. Vous pouvez les présenter. Bon, il y avait Sonner qui était présenté. On va pas le représenter, mais il y avait d'autres intervenants, notamment...
Il y avait Christophe Delire qui était là, qui est le webmaster de Nostalgie.be, donc une radio ici en Belgique, qui a été la première radio en Belgique à se lancer dans le podcasting, donc à mettre à disposition des internautes des fichiers MP3 en téléchargement sur son site. Il y avait Luciano Arcangeli aussi, qui lui est journaliste à la RTBF, qui a plus parlé au niveau vidéo de ce qui était possible maintenant, que ce soit en streaming ou que ce soit directement en téléchargement. Oui, et puis bon, c'est vrai que l'important, c'est pas tant l'usage, c'est pas tant l'outil en tant que tel, c'est l'usage qu'on va en avoir, et c'est
le
ça qui est intéressant. C'est
le contenu. On a fait beaucoup référence au contenu.
Voilà, c'est un leitmotiv, parce que je pense que parler dans le vide, ça sert pas à grand chose. À partir du moment où il y a des choses intéressantes à dire, alors là, ça devient crucial de pouvoir utiliser des bons outils pour le faire et de le rendre accessible au plus grand nombre.
On a l'impression qu'on est dans un moment charnière par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies. Et là, il y a une utilisation vraiment personnelle, individuelle, avec des outils presque gratuits.
Ah oui, tout à fait. Les logiciels open source qui existent maintenant sur le marché permettent de créer du son et d'aller le rechercher de manière gratuite aussi. Donc, je pense aussi qu'on a une évolution, un moment de l'évolution des technologies où il y a vraiment pléthore, où ça avance à une vitesse incroyable, où tous les jours il y a des nouvelles choses qui sortent. Nous, on est un peu des geeks ici autour de la table, donc on s'amuse à être.
Des quoi tu dis?
On s'amuse à être au courant de ces choses-là, parce que c'est vrai que l'utilisation du RSS, par exemple, a changé la manière de se tenir informé. Alors maintenant, ça commence à évoluer, et monsieur et madame tout le monde commencent à pouvoir avoir accès à ça sans forcément se dire j'utilise un outil qui est très spécifique. Non, ça devient très large, et les outils permettent ça aussi.
Voilà. De là découle le podcafé, toute l'équipe qui est ici, que je vais présenter. Il y a Denis, il y a Gaetano, François, Jérémy et Alex. Alors, vous êtes rencontrés déjà de quelle manière? Sur Internet, j'imagine.
C'est un accident, en fait.
Un accident?
On a Alex. Commencé à discuter sur Skype les uns avec les autres, et puis ça s'est recroisé, etc. Et puis après, on s'est dit on va aller faire une bouffe ensemble, et après on s'est dit qu'on va amener un micro et discuter, parce qu'on avait tellement des discussions sur tout, sur rien, et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'en faire une émission, une petite émission, parce qu'on podcast tous à peu près, donc on a envie de faire.
Mais voilà, mais au départ, disons que sur nos différents blogs, on passait déjà en revue différents projets, des nouveaux softs, des nouveaux services, avec passion et intérêt. Donc l'idée de se rencontrer pour faire un résumé de la semaine qui venait de se passer, de pouvoir commenter chacun de façon marrante, sarcastique ou simple ce qu'on avait vu, ce qu'on avait envie de dire sur le sujet.
Alors la rencontre réelle, elle était aussi intéressante que la rencontre virtuelle entre vous tous.
Il y a eu des surprises, hein, sur certains visages quand même.
La plus belle preuve, c'est qu'on en est maintenant au numéro 5 de Podcafé déjà.
Avec 3 hors-série.
Avec 3 hors-série en plus. La preuve, c'est qu'on est aussi aujourd'hui à lundi, tous réunis pour capter de l'information. Donc oui, c'est une expérience qui est très positive, et on a déjà un feedback de la part de nos éditeurs, on a un feedback de la part de certains professionnels de la communication aussi, et qui nous motive à continuer. On a détecté, je pense, un manque en Belgique francophone, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en Belgique francophone à part certains magazines bien connus. Il n'y a rien qui passe en revue cette information, et je pense qu'on répond à une demande par rapport à ça.
Alors, vous le mettez en place de quelle manière, ce podcafé? Vous réunissez quelque part, dans un lieu obscur ou public?
Très obscur. Très obscur.
On essaie de choisir des espaces qui sont connectés avec du Wi-Fi.
Oui.
Donc, ça peut être un carrestel sur l'autoroute, ou ça peut être un petit café dans le centre de Bruxelles. Enfin, on n'a pas de...
quartier général.
Pas de quartier général fixe.
Avant la, notre rencontre, en fait, on détermine des sujets, enfin un ordre du jour ou un menu. On discute en fait en utilisant un outil d'édition collaborative qu'on appelle un wiki. Et on échange nos sources qui sont bien souvent les sujets qu'on a pu couvrir dans les blogs et qu'on voudrait étayer ou documenter. Et une fois qu'on est tombé d'accord là-dessus, ben oui, on se donne rendez-vous dans un bar. Ça, c'est souvent un peu chaotique puisque parfois jusqu'à 15 minutes avant
le rendez-vous,
on ne sait pas où on va. Ami cafetier, équipez-vous en Wi-Fi, vous aurez plus de clients. Et puis ben là, on ouvre le micro et c'est parti.
Oui.
Ça coule.
Alors techniquement, justement, est-ce que c'est le micro que je vois là?
Oui, on a même, un système avec deux micros. Et,
On peut le décrire, ce matériel?
C'est un petit micro Sony.
Oui.
Qui est un classique chez Sony, c'est le ECM-MS907. Oui. Et on a un petit dictaphone de type Olympus. Donc c'est une clé USB en fait, le tout forme un très bon système d'enregistrement digital.
Coût du matériel?
On va dire qu'il y en a peut-être pour 200 euros.
Mm-hmm. Et la qualité du son est valable?
Très haute définition.
On a trois micros, donc le truc c'est de se dire, voilà. Le micro est là pour capter ces moments-là, mais le but vraiment, c'est d'avoir une discussion. On n'est pas en train de faire de la radio. On n'est pas dans live, on n'est pas on air. On est dans une réflexion entre nous, mais qui se veut sympa. Et donc c'est pour ça, on fait ça dans un café, dans un resto. On discute le coup entre gens qui sont un peu au courant du machin, et on essaie de faire profiter ça à tout le monde. Mais on se prend pas la tête. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui, je sais pas, le serveur qui passe pour nous proposer le pinard, on va pas arrêter l'enregistrement à ce moment-là. C'est comique, c'est marrant. Voilà, on laisse passer le.
Oui, parfois on n'est pas d'accord entre nous, on discute et voilà.
Et quelquefois, il y a des invités extérieurs, vous parliez du serveur qui passe.
Par exemple,
c'est le but.
On a une liste d'invités, des gens qu'on a identifiés plus ou moins qu'on voudrait inviter. Et je pense que dès le prochain numéro ou un des deux numéros qui suit, on invitera quelqu'un d'extérieur. L'idée est d'ouvrir évidemment notre cercle à d'autres personnes.
Mm-hmm. Alors, vous travaillez tous plus ou moins dans le domaine de la presse ou du multimédia?
Un rapport avec ce monde-là, évidemment, parce que c'est clair que c'est une passion avant tout, c'est ça qui est bien aussi. On se rend compte que pour faire vivre un blog ou pour faire vivre un podcast, c'est pas tout d'avoir des bonnes idées, il faut aussi avoir la passion qui va derrière, parce que ça se fait dans le temps. On va pas ouvrir un blog en pour 3 semaines, il y en a qui le font, c'est pas franchement notre conception du truc, c'est se dire on fait quelque chose dans le temps et on laisse une trace, et voilà, c'est ça qui est bien.
Vous avez un retour en termes d'audience par rapport à votre podcast?
Tourner vers celui qui a les chiffres d'audience.
Les chiffres. Non, mais pour l'instant on a entre 150 et 200 personnes qui passent par jour, donc soit qui téléchargent les podcasts ou bien qui viennent les écouter sur les pages du blog. Et donc, ça dépend des jours, mais on a entre 1500 et 2000 pages vues par jour.
Il faut dire aussi que les outils pour savoir exactement évaluer combien de fois un podcast a été vu, entendu, écouté, c'est des outils qui n'existent pas encore réellement. Donc. Et en plus, on fait pas ça pour ça. C'est ça qui est bien. Évidemment, quand on fait ce genre de choses, on a un œil dessus parce que c'est gai de savoir si effectivement il y a des gens qui écoutent ou pas. Ça sert à rien qu'on se casse la nanette s'il y a personne qui écoute. Mais on le fait pas pour ça. Donc.
Mais on a quand même déjà un fan club qui va se créer parce que Jérémy est fondateur, directeur du fan club.
Il y a eu des événements où, en tout cas, on était cité comme référence. Donc c'est signe que certaines personnes nous écoutent. Et que ces personnes sont en tout cas friandes des informations qu'on peut dispenser parce qu'elles ont des responsabilités aussi dans d'autres entreprises et que d'une certaine manière on peut aider à les informer.
Pour donner un exemple, on était invité la semaine passée à la conférence de presse de la RTBF quand elle a annoncé son offre en podcast. On a été cité plusieurs fois pendant la présentation en montrant ce que des artistes faisaient ou bien ce que d'autres gens
Et on a été invité en tant que blogueur. C'est ça qui est bien. On aurait pu être invité via nos activités professionnelles, mais là, on a reçu l'invitation sur nos mails de blog. Donc c'était assez.
Et on peut dire, en tout cas, que les podcasts qu'on a diffusés ont eu un impact dans la blogosphère, en tout cas au niveau francophone, auprès de différents sites connus et renommés. Et je crois que la RTBF était très contente que le bouche à oreille passe comme ça par les blogs pour.
Denis, vous êtes rédacteur en chef de Skynet.be, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Sur Skynet.be, il y a un podcast qui est assez connu, celui de Jérôme Collin.
Oui.
On peut en dire quelques mots ? Ça fonctionne bien.
Oui, on est au 12e épisode qui est sorti ce dimanche, avec un épisode un peu spécial puisque le groupe Vénus est venu passer une soirée auprès de Jérôme et ils ont un peu commenté l'actualité musicale. D'un point de vue, du projet en lui-même, donc c'est un projet qui émane de, de Jérôme, qui est venu voir Skynet courant novembre de l'année dernière. On a trouvé l'idée intéressante. On cherchait depuis milieu de l'année 2005 à lancer une initiative podcast, mais en ne trouvant pas ou un nom ou une voix qui pourrait porter l'initiative avec succès. Et voilà que Jérôme sonne à notre porte, donc on était satisfaits. On a lancé l'initiative au mois de janvier, je dirais avec simplement un blog. Ça a beaucoup plu à la presse qui a beaucoup écrit sur l'initiative, puisqu'elle permettait à Jérôme de retrouver un micro après ses mésaventures professionnelles. Alors, en termes de chiffres, c'est approximativement 6000 écoutes par semaine, 5900 en moyenne. Mm-hmm. Voilà, ce qui nous comble, ça nous satisfait. On l'utilise également, j'irai le podcast, pour essayer de développer une stratégie commerciale autour de ce format. Donc Skynet est une société de médias, donc elle vit des rentrées publicitaires, et là c'est un laboratoire intéressant, parce que les marques ou les annonceurs se questionnent sur les opportunités ou pas d'injecter de la publicité dans les podcasts.
Il y a des parrainages d'émissions, je crois.
À l'heure actuelle, c'est un parrainage qui est fait par une société filiale de Skynet. On a dès le départ décidé d'inclure de la publicité pour éviter que, enfin, le moment venu, si nous arrivons à commercialiser ces espaces auprès de clients, qu'il y ait une réaction négative de la part des auditeurs. On a déjà connu ce genre de mésaventure en, je dirais, injectant de la publicité dans des formats, alors que c'était notre but dès le départ, mais que nous ne l'avions pas prévu dans le design d'une page ou dans le format du fichier. Et là, il y a des réactions négatives. À l'heure actuelle, on a eu aucune réaction négative, et même c'est assez bizarre. Parfois, des personnes pensent qu'il n'y a pas de publicité dans ce podcast, alors qu'il y a effectivement un spot de 30 secondes en début de séquence, dans les deux premières minutes. Et puis, à chaque fichier, chaque rubrique est également disponible indépendamment, et elle est également porteuse d'une publicité.
François, vous êtes, je crois, vous travaillez dans le domaine du blogging professionnel.
Alors, oui, choub.com.
Ça devient déjà professionnel, le blog ?
Ben oui, puisque le principe des blogs et des logiciels sociaux, donc les wikis, permettent à des entreprises, autant en interne qu'en externe, ou bien à différentes organisations, de pouvoir développer des relations avec une communauté. Donc c'est le principe du blog où vous donnez une note, les gens viennent commenter, et donc par le fait de créer un lien et une régularité, vous pouvez développer une communauté, alors que ce soit pour faire du support pour un logiciel ou bien pour présenter ou développer un visage humain pour votre entreprise. Enfin, ce sont des applications qui commencent à, en tout cas, avoir un intérêt à se développer en Belgique.
Mm-hmm. Et Alex, vous êtes webmaster, je crois, d'un site, lequel ?
Ouais, chaosproject.be avec un K.
Oui.
On y parle surtout de toutes les nouvelles technologies, mais bon, je ne suis pas restreint à un domaine comme les mobiles, etc. Je parle vraiment de ce qui m'intéresse. Ça peut même être une machine à laver, si c'est bien, fait, j'en parle, quoi. J'ai souvent l'occasion donc de rencontrer des constructeurs, d'aller à des salons. Par exemple, je reviens du CeBIT, où j'ai vu plein de nouveautés, etc. Ça marche bien, on a une bonne audience, on est très contents.
Ouais. Mm-hmm. Et chacun est un peu actif dans le domaine. Expression.be, c'est Gaëtano, là.
Oui, ben expression.be, en fait, c'est un blog personnel que j'ai. En fait, la première version d'expression.be date de 2002. En fait, moi, j'ai à la base une formation de journaliste, mais j'ai très rapidement dévié dans le monde des nouvelles technologies et du web. Et donc, c'est une passion que j'ai développée et qui est devenue maintenant mon métier. Et sur expression.be, ben, je parle de choses qui m'intéressent, un petit peu comme Alex. Quand il y a quelque chose qui passe et qui m'intéresse, je le commente en essayant d'apporter toujours la petite plus-value. Parce que, comme le disait Damien, parler dans le vide, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'intérêt aussi, c'est d'amener une valeur ajoutée à son discours et d'amener une valeur ajoutée à son contenu. Et c'est pas une chose facile. Donc être blogueur, c'est aussi une discipline de tous les jours. Hein. Donc je pense qu'on pourrait en faire tout un débat, mais bloguer, c'est quasi une activité parallèle qui va pas prendre autant de temps que l'activité professionnelle, mais presque.
Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment de bloguer comme ça ? Ça a démarré comment ? En deux minutes, là, parce qu'il nous reste deux, trois minutes, mais Moi, le sentiment premier par rapport à ça.
Moi, c'est vrai qu'en tant que journaliste, je suis friand d'informations, c'est ce qui me fait vivre. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait moyen de réagir par rapport à cette information-là, et qu'il y avait moyen d'en produire de la nouvelle. Et donc, c'est vrai qu'on arrive dans une année ici qui est une année électorale. Je me rendais compte qu'il y avait moyen sur Internet de discuter de tout ça. On se rend compte qu'en France, par exemple, la campagne électorale qui a eu lieu par rapport aux élections présidentielles qui vont arriver, mais surtout par rapport au référendum sur la Constitution européenne, il y a eu beaucoup de discussions qui sont passées sur le web et il y avait moyen de cartographier ça et de voir que il y a eu beaucoup plus de discussions par rapport au non que par rapport au oui. Alors, on va pas tirer de plan sur la comète, est-ce que c'est ça qui a fait que on va pas aller aussi loin, mais je pense que la discussion et les discussions sur Internet font partie intégrante des discussions de la vie courante et de tous les jours, et que il y a des gens qui prennent du temps pour aller sur Internet. C'est une démarche volontaire de se mettre sur le net et de bloguer. Chacun, autant que nous sommes, nous faisons une démarche qui est volontaire. On met à disposition ce qu'on fait, on réfléchit, on discute, on taille la bavette et ça fait avancer le monde, au moins, n'est-ce pas?
Pour ma part, ça s'inscrivait quand même dans une sorte de rigueur professionnelle. Il y a j'ai eu deux phases de blogging. La première date de je ne sais plus quand, en 2002 je crois, au moment où Skynet avait lancé sa plateforme de blog, et puis la deuxième vague était vraiment de se dire je passe en revue, vu mes fonctions, un nombre incalculable de sites dont certains sont véritablement extrêmement intéressants. Pourquoi, d'une manière assez égoïste, conserver cette expérience, cet acquis, le temps que j'ai consacré à passer en revue ces sites, juste pour mon usage propre? Je dirais que l'usage propre que j'en ai, c'est les conclusions que j'en tire, mais l'information, donc les liens, la description du site, à la limite, en quoi ce site s'inscrit dans un schéma global intéressant, ça c'est une information que j'aime à relayer, que je trouve utile, et le retour est, je dirais, un point de vue qui est souvent, un expert. Ça permet d'assumer ce titre pas au nom d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle, mais vraiment de faits concrets qui sont de se dire, là, il a assemblé une info pertinente.
Moi, je dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on utilise le web comme moyen de communication et comme une plateforme, plutôt que comme un média où on vient lire des pages, où on vient lire du contenu. Et c'est pour ça que le format de la discussion nous intéresse. Et je dirais que par les blogs, par le podcast et par... on arrive à rencontrer des gens qui se trouvent au Canada, en Italie, enfin des gens qui nous lisent dans notre langue ou avec qui on arrive à avoir des échanges qui sont vraiment passionnants. Et fondamentalement, on s'en fout de savoir si on a une audience qui fait X visiteurs ou le principe, c'est de pouvoir partager ce qui nous intéresse, et on fait vraiment des rencontres très très intéressantes. Donc j'avais organisé au mois d'octobre une conférence sur le sujet des blogs utilisé par les médias et par les entreprises à Bruxelles. Eh bien, presque tous les panélistes, une grande majorité étaient français, sont tous venus sans poser de questions. Et il y en a même Régine Debatti qui est venue d'Italie. Et je veux dire, les gens, il y a une espèce d'entrain et d'envie de partager les choses et de le diffuser comme ça, et qui crée des rencontres qui sont vraiment toujours passionnantes et intéressantes.
Denis, un mot, peut-être ?
Jérémy,
pardon, excuse-moi.
Mais bonjour. Je suis chercheur. Je viens de commencer une thèse à l'ULB, au département des sciences de l'information et de la communication. Et au départ, le blog, ça me servait simplement à avoir quelques outputs sur mon travail. Petit à petit, ça s'est transformé en journal de recherche. Et de fil en aiguille, c'est là que j'en suis arrivé à essayer de podcaster aussi. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré tous ces charmants... jeunes hommes. Mille excuses.
On va terminer là en rappelant simplement peut-être le prochain podcast, il a lieu où, quand? Vous ne savez pas encore?
Il a lieu le 7 avril.
Ouais, le 7 avril.
Que tu dis
dans le micro. Merci.
Que je dis, non, il aura lieu le vendredi 7 avril. Et donc le lieu, c'est comme toujours, ce sera en dernière minute.
Ah d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de proposer des endroits qui peuvent être sympathiques pour enregistrer, on a déjà fait ça dans un resto-route, donc c'est ouvert vraiment à toutes les bonnes idées.
Bien, je vous remercie. Podcafé.be. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.